Eh bien, aujourd'hui, on parle d'aurore boréale à Radio Taïga. Le studio est plein de fans d'aurore boréale. On a évidemment Cristiano Pereira qui est notre expert ici à Yellowknife et à Médiaténois en aurore boréale. Et ses invités, j'ai Sabrina Frappier. Bonjour Sabrina.
Bonjour.
Et la sœur de Sabrina, Médérica Frappier.
Bonjour.
J'ai aussi Arnaud Kay.
Et bonjour.
Et sa mère Obeka.
Bonjour.
Bonjour tout le monde. La première question, et là, je vais avoir besoin d'un expert, et je pense que c'est sa mère qui va répondre. Qu'est-ce qu'une aurore boréale?
OK, moi je suis l'expert. une aurore boréale, en fait, c'est une interaction entre les vents solaires qui arrivent vers la Terre avec l'atmosphère de la Terre. Donc, c'est un peu ça. En quelques mots.
Pourquoi il y a des couleurs? C'est ça la vraie question.
C'est une question aussi. Les couleurs sont en fait, c'est relié à l'altitude dans laquelle ces particules sont rentrées dans notre atmosphère. Donc ça peut aller de 100 km à peu près 400, 500 km. Donc selon l'interaction avec les gaz qui existent, les couleurs vont être différentes. Ça peut être vert, ça peut être rouge, ça peut être un peu violet aussi. Mm-hmm. Donc c'est un peu ça. La couleur la plus évidente, c'est la couleur verte. Qu'on voit souvent, mais c'est sûr que tu sais, il y a une possibilité d'avoir d'autres couleurs rouges, comme j'ai mentionné, quand les particules chargées qui arrivent font une interaction avec l'azote, par exemple.
L'azote qui est présent dans l'air.
Exactement.
Mm-hmm. Donc, il y a des endroits où il y a plus d'azote que d'autres, des courants de gaz dans l'atmosphère, puis ça, dépendamment des vents solaires. Dépendamment des courants de gaz, il va y avoir des interactions qui produisent des couleurs et qui se déplacent.
Exactement. Puis c'est selon l'altitude, dans le fond, de ces particules-là. Donc, mm-hmm. plus que les aurores qui arrivent sont plus hautes dans l'atmosphère, plus que ça va être plus coloré.
Oui. Bon. Question pour vous, Sabrina et Médérica. Pourquoi est-ce que vous êtes venus à Yellowknife?
Je suis beaucoup de groupes Facebook sur les aurores boréales, puis j'ai vu que Yellowknife était vraiment un bon endroit pour en observer. Donc, c'est pour ça qu'on a décidé de venir ici.
Ah, donc c'était vraiment pour les aurores boréales?
Absolument. Vraiment.
Oui, c'était mon rêve, puis je l'ai réalisé hier.
Ah, vous en avez vu?
Oui, c'était vraiment magnifique. Moi, je m'attendais à avoir comme plus une couleur verdâtre pâle dans le ciel, mais quand on est arrivé, ça a commencé à danser. On a vu du vert vraiment flash, puis on a même vu du rose, puis tout dansait en nous. On dirait qu'on était enveloppé par les aurores boréales.
Ah oui,
c'était vraiment magnifique.
Ça arrive des fois que les aurores boréales, c'est juste comme une espèce de tache verte dans le ciel.
Oui, effectivement.
Je pense que vous avez été chanceux, peut-être, là.
Je suis vraiment contente d'avoir été chanceuse.
Parce que c'est vrai, là, j'ai vu, puis des fois, c'est trompeur, hein, parce que, puis je sais que Cristiano, c'est un expert en photographie d'aurore boréale, mais des fois, on voit des photographies d'aurore boréale, puis ça a l'air impressionnant sur photo, mais en vrai, c'est pas toujours aussi impressionnant, n'est-ce pas, Cristiano?
Oui, souvent les aurores sont beaucoup plus pâles et discrètes dans le ciel, elles ne sont pas aussi évidentes et, avec le contraste qu'on voit dans les photos. Ça, c'est lié à plusieurs facteurs. Le premier, c'est le plus important, c'est que les senseurs des caméras arrivent à capter la lumière faible beaucoup mieux que nos yeux. Et aussi parce que les caméras peuvent faire des expositions longues et nos yeux n'arrivent pas à le faire. Et donc, c'est pour ça qu'on voit normalement les couleurs beaucoup plus fortes dans les photographies. Après, il y a aussi bien sûr le problème des gens qui retouchent trop les photos, tu vois, exagèrent trop dans les...
Le contraste, la saturation.
Ça, c'est un problème. C'est un problème parce que ça peut créer des expectatives.
Des attentes.
Des attentes.
Des attentes, mm-hmm. des attentes dans les gens qui n'ont jamais vu et qui, après, quand ils regardent les aurores, et si l'aurore n'est pas aussi forte, elles restent un peu déçues avec ça. Heureusement, ici à Yellowknife, on a la chance d'avoir souvent des aurores fortes. Et c'est de la nuit dernière, j'étais avec, avec tout le monde ici. Je peux dire que c'était une aurore très, très bien, en fait. L'aurore normale qu'on a ici à Yellowknife. On a eu un moment d'explosion très impressionnant, en fait. Mais c'était sympa. C'était sympa surtout parce qu'hier, c'était très particulier. Hier, c'était une pure nuit de chasse à les aurores. Ça veut dire qu'on n'a pas juste sorti pour aller au Ingraham Trail, regarder le ciel et voir l'aurore. Non. Nous sommes partis au Ingraham Trail, on a arrêté à Pontum Lake et à Perlod Lake. On a été pendant peut-être une heure et demie, avec que des nuages dans le ciel. On a attendu que les nuages partaient à certains moments, et c'était déjà vers minuit, ou quelque chose comme ça. On a regardé l'application astrosphérique qui nous montre un peu la couverture nuageuse de la région. Et on a vu qu'il avait un trou dans les nuages vers Bechoko. Et donc, nous sommes partis. On était au milieu de Perlod Lake. Nous sommes décidés qu'on va vers Bechoko et on a pris la voiture.
Comment vous avez fait vous avez des outils, des appareils pour mesurer la couverture astrosphérique, que vous avez dit?
Oui. Donc, c'est une application très bien pour suivre les conditions de météo, dans ce cas-là, les conditions des nuages, et pour comprendre où est-ce qu'on peut trouver le ciel dégagé.
OK, donc c'est pas juste une question de hasard là, pour vous là, d'être au bon endroit au bon moment. Là. Il y a des outils de mesure astrosphérique qui vous permettent d'évaluer là, où vous positionnez et à quel moment.
Exactement. Et voilà, et c'est ça qu'on a cherché. Moi, j'étais plutôt concentré à trouver l'endroit avec le ciel dégagé parce que je sais que vers minuit, ici à Yellowknife, si le ciel est dégagé, on a vraiment des bonnes chances de voir des aurores.
Mm-hmm.
Et voilà, on a eu beaucoup de chance en même temps, tu vois, parce que la chance, c'est très important quand tu chasses les aurores. Tu vois. Si tu n'as pas de chance, voilà. Tu vas pas avoir des aurores.
Mm-hmm,
pas de chance aussi. C'est pas juste l'expérience de lire les données. Voilà. Et on a eu beaucoup de chance parce que à certains moments, Sabrina a commencé à dire je commence à voir des étoiles pendant que je conduisais, tu vois. Et trois minutes après, je commence à voir une aurore. Et alors là, j'ai compris, on est dans le bon endroit. Je vais m'arrêter lorsque je trouve un pull-out, un truc sûr pour arrêter la voiture. C'est ce qu'on a fait. Et on a sorti de la voiture, elle était... quelques minutes après, c'est quand elle a commencé vraiment à danser et à exploser. Donc, on était chanceux.
Vraiment.
Et vous, Arnaud, quelle a été votre expérience? Pourquoi vous êtes venu à Yellowknife? Est-ce que vous êtes un mordu d'aurore boréale aussi?
Oui, après, je pense que beaucoup de personnes ont dans leur petite liste de voyages les aurores boréales à faire dans sa vie. Après, il faut trouver l'opportunité et le temps de se donner les moyens d'en voir. Et nous, pour le coup, on est trois Français, on est arrivés à Montréal. Et quand je suis arrivé à Montréal, je me suis dit, dans ma durée de séjour ici, il faut que j'aille voir les aurores boréales, que ce soit au Québec ou dans le Nord-Ouest. Et je me suis dit, ce serait bien aussi de voir une autre partie du Canada. Donc j'ai pris mon billet pour Yellowknife pour avoir une chance d'en observer. Et pour revenir sur la soirée d'hier, c'est vrai qu'on a eu une première partie où les aurores ont eu du mal à sortir, avec les nuages aussi, la couverture nuageuse qui ne facilitait pas les choses. Et puis on avait Cristiano au volant et puis sa mère qui était copilote aux données atmosphériques, et c'est vrai qu'on a eu de la chance de tomber dessus par la suite, et après c'était un spectacle à voir les yeux levés, et puis voilà, beaucoup de danse et de belles couleurs.
Combien de temps vous êtes resté à l'extérieur à observer les aurores boréales? Est-ce qu'il faisait froid?
Oui, je pense que je suis bien placé pour en parler parce que j'étais un peu sous-équipé, on va dire, surtout au niveau du bas, donc les jambes et les pieds. Donc pour les auditeurs, voilà, vraiment rappeler que l'équipement est important. Je pense surtout pour le bas, comme on est en contact avec le sol et que voilà, le froid vient beaucoup du sol, bien se couvrir, bien se protéger pour profiter au maximum du spectacle proposé par la nature.
Puis, Je sais que pour vous, là, c'était comme un rêve, là, Sabrina et Médérica, de venir ici, là. Comment est-ce que vous qualifieriez votre expérience? Est-ce qu'il y a un mot, genre? Est-ce que...
En fait, je pense qu'avec, justement, le spectacle d'horreur qu'on a vu hier, juste ça a valu tous les sous que ça coûtait, mettons, pour venir ici. Vraiment, t'sais, d'avoir pour son argent, là, mm-hmm. c'est exactement ça, puis... Journée 1, mettons.
Journée 1, oui, oui, oui. Alors, on vous en souhaite d'autres, là.
Ben, je vous en souhaite d'autres aussi, oui. Mais c'est vraiment, c'est magnifique. Ça, des fois, je te mets au Québec, on envoie des... Ben, pour dire, là, on fait comme... Ah,
je pense qu'il y a... Ça a l'air d'un nuage, là.
C'est ça, ouais, exact. C'est ça. Mais là, c'était, là... on dirait qu'on n'avait pas les yeux assez grands pour tout voir. Puis, c'est ça, on... À chaque fois, mettons, on était là, hey, regarde à gauche! Regarde à droite! Là, on dirait qu'on n'était pas, on n'avait pas les yeux assez grands. Puis comme Sabrina disait tantôt, on dirait qu'on était comme enveloppés de l'horreur. Là, c'était vraiment magnifique, c'était spectaculaire.
Spectaculaire, OK. Ouais. J'ai déjà entendu quelqu'un mentionner que c'était une expérience un peu spirituelle. Est-ce que vous avez déjà vécu ça, sa mère peut-être?
Moi, ça fait depuis 2015 que je vois des aurores, puis je les chasse. Puis à chaque fois que je vois les aurores, j'avoue qu'il y a quelque chose de spécial dans cet événement-là. Donc, vous avez vu l'aurore la première fois aujourd'hui. Je suis sûr et certain que vous allez la voir de nouveau durant votre séjour. Puis vous allez voir la différence. C'est jamais la même chose. Cristiano peut confirmer aussi. C'est vraiment pour moi... un moment de, je sais pas, déconnecter un peu de tout ce qu'il y a dans ta vie, puis vraiment être avec la nature, ça m'oblige à regarder. C'est tellement fort comme couleur, comme mouvement, tout ça. Donc je suis sûr et certain que aussi nos ancêtres, puis c'est des gens aussi autochtones qui ont une relation, quelque chose avec ça. Puis je suis très curieux, en fait. Je suis là aussi pour apprendre sur ce sujet-là, surtout dans les territoires nord-ouest, essayer de comprendre plus comment les gens qui vivent ici, qui voient les aurores tous les jours, ça veut dire quoi pour eux.
Moi, petite histoire comme ça, la première aurore que j'ai vue dans ma vie, c'était bien avant de venir à Yellowknife, puis j'étais en Ontario, je traversais, je pense que c'était dans le coin d'une place qui s'appelait Marathon ou quelque chose comme ça. Puis il y avait un lac, puis je campais sur le bord du lac avec mon ami. On traversait le Canada, puis on a vu des aurores boréales au-dessus du lac, puis c'était magnifique, puis il y avait un First Nation qui était là avec nous, puis il nous avait dit « Hey, il s'agit de siffler pour les faire bouger ». Puis là, lui, il s'était mis à siffler comme ça, il sifflait vraiment fort, puis là, ça a comme descendu, là, puis c'est allé toucher presque au lac.
Wow.
Que c'est possible, ça?
Ouais.
On va essayer ça.
On va essayer.
Ben moi, j'avais vu ça comme une expérience un peu spirituelle.
Hein. Ouais.
Mais...
Ils vont rester encore quelques jours ici à Yellowknife, donc normalement, oui, on va voir encore des aurores. J'espère qu'ensemble. Voilà, maintenant c'est une question de gérer un peu l'anxiété à cause des nuages. Parce que je pense qu'on va avoir quelques nuages ce soir et les prochains jours. On espère de trouver des moments avec d'ouverture dans les nuages. On va voir.
Mais moi, Cristiano, je vous connais parce qu'on travaille ensemble. Je suis un peu fasciné là, par l'extrême motivation de sortir pratiquement à toutes les nuits où il y a une possibilité d'avoir des aurores boréales. Puis passer des heures et des heures à l'extérieur, puis à prendre des photos, courir avec plein de caméras. Est-ce que vous allez faire ça toute votre vie? Chasser des aurores comme ça?
C'est drôle parce que parfois je me demande ça. Et je me dirais que peut-être oui. Par exemple, j'ai pas envie de quitter Yellowknife parce que je sais que si je quitte Yellowknife pour aller vivre dans un autre endroit, je vais être malheureux à cause de ne pas avoir le ciel de Yellowknife. Ça m'est arrivé ça après la première fois, le premier hiver que j'ai passé ici en 2019. Et donc, oui, c'est ça que j'aime faire. Il y a des gens qui aiment faire la pêche, chasser, ou faire du ski, ou faire n'importe quoi. Moi, j'aime être dehors, à prendre des photos des aurores, soit tout seul, comme je fais souvent, soit avec des amis, tu vois. Je préfère regarder le ciel avec des aurores qu'être voilà, à la maison à regarder Netflix. Voilà. C'est juste ça. J'aime bien, c'est toujours différent aussi. Et après, j'aime bien la photographie. Donc, à partir du moment où tu aimes bien la photographie, tu aimes bien les aurores, si tu es dans un endroit où il y a d'aurores presque tous les soirs, toutes les nuits, tu es dans le paradis. Tu vois.
Le paradis des aurores boréales. Ouais, c'est ça, Yellowknife. Sabrina, Médérica, Arnaud, Samar, Cristiano, merci beaucoup d'être venu en studio de nous parler de votre passion des aurores boréales. Ça a été une agréable conversation.
Merci à vous. Merci à vous.